37. Ouais. Où étions-nous? On a expliqué dans le deuxième chapitre de Shaarichut Ve'emouna, on est en plein milieu du deuxième chapitre, que lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la création du monde, vous suivez dans la conférence Shaarichut Ve'emouna, alors Shaarichut Ve'emouna, chapitre 2. On a expliqué que lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, la création n'est pas qu'un acte que Dieu a fait il y a 5780 années et après ça tourne. Non. On a expliqué que la parole d'Akadosh Baruch Hu avec laquelle il a créé le monde, cette parole continue jusqu'à maintenant à vivifier le monde. Et si Hachem arrêtait ne serait-ce qu'un seul instant de créer le monde cesserait d'exister. Ça, c'est ce qu'on a expliqué dans le chapitre 1. Maintenant, dans le chapitre 2, on a commencé à toucher un sujet très complexe. En vérité, on s'arrête en plein milieu, parce que c'est un sujet très complexe. On dit qu'il a parlé de l'erreur des imposteurs.
Des
imposteurs.
Ah.
L'erreur des imposteurs qui disent la chose suivante, qui disent, je veux bien accepter, je veux bien admettre qu'il y a un Dieu. Je veux bien admettre que ce Dieu a créé le monde. C'est déjà pas mal. Mais ce qui me dérange, c'est Ashgacha Pratit. Qu'est-ce qui t'oblige à dire que Akadosh Baruch Hu surveille de façon détaillée chaque élément, chaque chose qui se passe dans ce monde? Tu dis, écoute, je veux bien que Dieu il a créé le monde.
Mais
je veux bien que Dieu, s'il veut, il peut le détruire. Je veux bien que Dieu, s'il veut, il peut intervenir quand il veut. C'est un grand patron. Si vous voulez, il voit Dieu comme un grand PDG. Un PDG qui a une multinationale. Il a des centaines de milliers de salariés. Alors, je lui dis, mais est-ce que tu crois vraiment que le PDG, il a que ça à faire maintenant, à aller s'occuper, quel produit a utilisé l'homme de ménage? Et est-ce qu'il a bien nettoyé le centimètre qui était à droite de la marche ou pas? Le PDG, il a pas que ça à faire. C'est pas son travail. S'il veut, il peut rentrer, il peut voir, il peut poser la question à l'employé, et puis lui dire, monsieur, quel produit avez-vous utilisé? Est-ce que vous avez bien nettoyé? Il peut le faire s'il veut. Mais c'est pas son travail. Et c'est ça l'erreur des imposteurs. On va expliquer pourquoi c'est une erreur.
Très jeune, ça.
C'est qu'ils disent, on ne voit pas pourquoi Dieu aurait besoin de gérer chaque détail de notre monde. Je ne comprends pas pourquoi. Je veux bien que Dieu a géré les grandes lignes, et après une fois que ça tourne, ça tourne, ça fonctionne. Alors où est l'erreur? A priori, c'est parfaitement logique ce qu'ils disent. Où est l'erreur?
Un peu comme Yitro quand il a demandé à Moïse de
déléguer.
De déléguer un
non,
petit
peu. Oui, d'accord.
Là, pour le coup, c'est pas bon.
Non, mais là justement, c'est-à-dire là, on dit que Dieu ne peut pas déléguer. C'est pas seulement déléguer, c'est que ça ne peut pas tourner tout seul. Pourquoi? Où est l'erreur? Alors, Admor HaZaken a expliqué comme ça. Ça, on a expliqué longuement la semaine dernière. La source de l'erreur, c'est qu'il compare la création du monde à une création qu'un artiste ferait. Où est l'erreur? C'est que lorsqu'un artiste va créer un ustensile, en vérité l'artiste ne crée pas. L'artiste ne fait que façonner, transformer. Donc effectivement, lorsque tu as un artiste, comment il s'appelait l'artiste de manière
Stark,
d'accord. Philippe Stark. Quand tu as Stark qui t'a dessiné, il a encore envie? Fort, très bien. D'accord. Alors, lorsque tu as un artiste qui a fait une belle œuvre d'art. Bon. Maintenant, l'artiste finalement n'a rien créé. La création, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'il a pris de la matière qui existait déjà et il l'a transformée. C'est la raison pour laquelle la vie du produit ne dépend pas de son concepteur. C'est-à-dire que Stark peut partir, le produit qu'il a conçu restera là. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas créé. Il n'est pas allé contre la nature du produit. Ça, c'est le sujet sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Le sujet. C'est que lorsque j'ai pris un élément, je l'ai façonné, il a pris du bois, il en a fait une table, il n'est pas allé contre la nature du bois. Il a pris de la matière, il n'avait pas de forme, il en avait une forme. C'est la raison pour laquelle, effectivement, dans ce cas-là, Stark, s'il veut, il peut revenir. Il peut revenir et il peut dire, bon, bah, dorénavant, c'est plus une table, c'est une chaise. Bon, très bien, il peut s'il veut. Mais la vie de la table ne dépend pas de Stark. Elle tourne, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que le bois avait déjà une vie avant lui. Et il a une vie après lui aussi. Ça, c'est yesh mi yesh.
Donc la matière.
C'est lorsqu'on crée à partir d'une autre existence. Par contre, Akadosh Baruch Hu n'a pas créé Yesh Miyesh. Kadosh Baruch Hu ne crée pas une existence qui vient d'une autre existence. Il a créé ex nihilo, yesh me ayin. Une existence qui vient de rien. Et alors, là on arrive au chidouche d'aujourd'hui. Étant donné que c'est une existence qui vient de rien, c'est un chidouche. C'est une nouveauté. Il y a un principe qui dit qu'un élément qui est nouveau doit constamment être renouvelé. Alors on s'est arrêté la semaine dernière avec cet exemple. On avait donné l'exemple physique d'une balle. Imaginez par exemple que je prends une balle, je la jette en l'air. Qu'est-ce qui va se passer? La balle va forcément retomber. Pourquoi elle ne tombe pas tout de suite? Pourquoi quand je la jette, il va se passer 5, 10 secondes, 20 secondes, d'accord, avant qu'elle retombe? Pourquoi elle ne tombe pas tout de suite la balle? Parce qu'en vérité, sur cette balle, il y a deux forces qui s'exercent. Il y a une force qui est l'attraction terrestre, qui la tire vers le bas. Il y a une autre force qui est la force que j'ai mise dans cette balle, qui va l'aider à combattre l'attraction terrestre, à être plus fort que l'attraction terrestre. Tant que la force que j'ai exercée est plus forte que l'attraction terrestre, qu'est-ce qui se passe?
Elle reste en l'air.
La balle monte. Ou elle reste en l'air, ou elle monte. Dès l'instant où je lâche cette force n'est plus assez forte, qu'est-ce qui se passe? Elle retourne automatiquement à sa source. Il n'y a pas besoin de miracle. C'est pas que j'ai besoin d'une force pour mettre la balle quand elle est en haut, et après, j'ai besoin d'une autre force pour la faire descendre. On n'est pas dans l'espace, là. Mmh. Là, c'est la force, c'est qu'il faut constamment maintenir la balle dans l'espace. Et dès que tu arrêtes, eh ben, elle tombe. Alors, en vérité, j'ai même pas besoin de parler de jeter. Il suffirait de prendre simplement un exemple. C'est très bien ce que tu as précisé, Michael. Je ne jette pas la balle, elle est dans ma main. Maintenant, elle est comme ça dans ma main. D'accord? Je ne la jette pas, elle est dans ma main, elle tient dans ma main. Pourquoi elle tient? Parce que je la tiens. Maintenant, quand je la lâche, il n'y a pas besoin d'une autre force qui vienne pour la faire tomber. Elle est déjà en train de tomber. Sa nature sait de tomber. Seulement, comme je l'ai maintenue et que, à ce moment-là, la force que j'ai exercée était plus forte que la force de l'attraction terrestre, donc elle reste en place. Bon. Alors là, il faut qu'on arrive maintenant, il faut qu'on applique tout ça par rapport à Kadosh Baruch.
La force dont tu parles que tiens, c'est Dieu qui la donne.
Alors justement. Maintenant, on va aller voir un peu plus clair. On va essayer d'appliquer tout ça par rapport à Kadosh Baruch. Quelle est la nature du monde?
Que se reproduire.
Attendez.
La nature.
Oui, la nature.
Ça veut dire quoi?
Bah, c'est une très bonne question. Ça veut dire quoi? C'est une bonne question aussi. Parce que je suis en train de dire que il faut qu'on, apparemment, lorsque Dieu crée le monde, c'est quelque chose qui va à contre-courant. Ex nihilo. Ça veut dire que la nature du monde, c'était quoi? C'était d'être du.
Attiré.
Vide, c'est pas une bonne définition.
Attiré.
Parce que vide, c'est déjà quelque chose, le vide. Voilà. Néant.
Néant.
Même néant,
c'est pas bon.
Mort.
Ah, j'étudie en ce moment avec mon fils, là. Il est en train de quitter Aleph. Il apprend à étudier Parasha Bereshit.
Ah.
Tu sais, c'est pareil que tu as lu des dizaines de fois. Mais quand tu lis, tu traduis mot à mot avec un enfant. Et que l'enfant, il dit, papa, c'est quoi néant?
Ouais, c'est vrai. C'est belle, n'importe quel mot, quoi.
C'est quoi Tohu Vavo? C'est quoi Tohu Vavo? C'est quoi? Il te pose une question. C'est quoi tout mélangé? Qu'est-ce qu'il y avait? Et quand tu poses une question, tu dis, mais c'est vrai qu'il faut trouver des mots. Et là, tu comprends que c'est pas si simple que ça. La question est compliquée.
C'est Rochma, il dit.
Toutes les matières étaient mélangées.
Alors, justement, quelle est la nature du monde? Avant que le monde ait été créé, c'était quoi? C'était Aïn. C'est quoi le néant? Prends une question. Très bien. Tu poses la même question. C'est quoi le néant? Comment définir le néant?
D'accord, je ne peux pas définir le néant.
Alors, si, j'ai une définition. Une définition spirituelle.
Mélange de matière?
Non. Le néant, c'est Bitoul. Le néant, ça veut dire c'est quelque chose qui est annulé à Kadosh Baruch Hu.
Ça veut dire quoi?
Qui est annulé à Kadosh Baruch Hu. Qui est effacé devant un Kadosh Baruch Hu qui n'a pas d'existence propre, qui n'a pas d'existence individuelle. Le yesh, une existence, c'est quelque chose qui, de prime abord, t'as l'impression qu'il a une existence individuelle. Alors maintenant, je vous pose une question très simple. Est-ce que d'après vous, un homme sur Terre, ou même un objet sur Terre peut être indépendant? Est-ce que par exemple, le verre qui est devant moi, est-ce que ce verre est indépendant?
Après quoi?
Indépendant, est-ce qu'il a son indépendance?
Non. À l'intérieur de la nature.
Attendez.
À l'intérieur de la création.
Sa création ou sa fonction?
Ne me dites pas vos croyances, dites-moi ce que vous voyez.
Un verre, ouais.
J'ai un verre devant moi, est-ce que ce verre est a priori indépendant?
Non.
Pourquoi?
Il est indépendant. Non, il est pas.
Non, deux secondes. On va arriver après à Kadosh Baruch Hu.
Oui, parce qu'il a...
D'abord, on va essayer d'expliquer ce que mes yeux voient.
Avant d'être verre, il est matière.
Là, maintenant, j'ai un verre devant moi.
Ok.
Donc, quoi, votre prénom?
Dan.
Le verre qui est posé devant vous, est-ce qu'il est autonome ou pas? A priori, oui.
Et toi?
Qui c'est qui le dérange ici?
Un verre.
Il a des comptes à rendre à qui, ce verre?
À lui-même.
Vous allez rentrer ce soir à la maison, vous avez des comptes à rendre. Où t'étais, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as appris, etc.
Non,
ce verre, il n'a pas Madame Verre qui est à côté. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Donc il est. Ah, il est autonome. Il est autonome. Il a des comptes à rendre à personne. Il fait sa vie.
Il n'a pas de vie, hein. Il n'est pas autonome.
Si, il a une vie, mais il existe. Exister, ça veut dire qu'il vit.
D'accord.
Ok. La table que j'ai devant moi, elle vit.
D'accord.
Ok. Tu vas aller de, je sais pas moi, tu vas, t'as une mouche qui va passer, t'as tout ce que tu veux. Okay. Il est autonome. Est-ce que cette autonomie est une vraie autonomie?
Non. Au
départ, est-ce que l'autonomie que je vois est une vraie autonomie? Est-ce que ce verre est vraiment autonome? La Torah t'apprend que non. En vérité, ce verre, il est créé. Pas seulement qu'il est créé, c'est qu'il y a Kadosh Baruch qui est en train de le créer à chaque seconde, à chaque instant. Ça veut dire que ce verre n'est pas autonome. Alors s'il n'est pas autonome, pourquoi il a l'air autonome?
Parce que c'est Dieu qui lui donne cette existence.
Parce qu'il y a une force qui est derrière, qui lui donne cette apparence, qui est fausse. C'est exactement comme l'exemple du verre. Celui qui voit le verre, imaginez le verre que vous avez devant moi, mais imaginez qu'on a fait un effet et que vous ne voyez pas ma main. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un verre qui tient. Tu dis, mais Ribono Shel Olam, comment il tient ce verre? C'est un miracle. C'est un verre qui tient. Comment il tient ce verre? Pourquoi il tombe pas? Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch? Alors regardez la finesse, qu'il faut bien comprendre ce détail-là, sinon on ne comprend pas la suite. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch, quand il crée le monde,
force.
Il exerce une force, mais il rend cette force invisible. Ça veut dire que tu vois le verre, tu as l'impression que ce verre est autonome. Mais ce verre ne peut pas être autonome. Parce que si ce verre devient autonome, il doit revenir à sa source, à sa nature. Et c'est quoi sa nature?
Rien.
Sa nature, c'est d'être néant. Sa nature, c'est de ne pas exister.
Donc
ne pas exister, pas. Ça veut dire ne pas être indépendant.
Donc il rajoute un autre élément.
Donc en fait, Akadosh Baruch Hu est constamment obligé de donner une pseudo-indépendance à chaque objet, à chaque élément de ce monde. Tout en se montrant pas. C'est extrêmement compliqué.
Non, mais ça veut dire aussi que les hommes, c'est la même chose.
Alors, on va donner un exemple chez les hommes, voilà, c'est une très bonne question.
Nature, en fait, il est très bien. Il rappelle ou il rappelle pas la nature.
C'est une très bonne question. C'est un très bon exemple, tu parles des hommes. On va donner un exemple.
Nature,
imagine-toi que tu as un ado. Tu as un ado à la maison. Et tu veux lui donner son indépendance. Parce que tu trouves qu'il est un peu trop dépendant. Il est un peu trop comme ça, il demande trop. Tu veux lui donner son indépendance. Mais d'un autre côté, tu veux l'aider. Alors, comment tu fais?
Je sais pas.
C'est compliqué. Comment tu fais? Donc, tu vas lui, imagine-toi, en théorie, tu vois. On va lui donner une carte bancaire. Et on va lui dire qu'avec cette carte bancaire, il peut servir quand il veut. Mais il faut qu'il croie que cette carte bancaire, en vérité, il n'y a pas son père derrière qui l'alimente. Il faut qu'il croie que cette carte bancaire, chaque fois qu'il va à la banque, c'est lui qui est parti travailler, c'est lui qui a créé l'argent.
Alors c'est son père qui l'alimente.
Mais lui, il ne sait pas qu'il y a son père. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il dit, mais voilà, j'ai travaillé. Je suis parti au distributeur, j'ai fait le code, j'ai mis la carte, j'ai travaillé, il y a de l'argent qui est sorti. Maintenant, va lui expliquer que derrière ce distributeur, en vérité, il y a des machines, et qu'il y a quelqu'un qui a alimenté son compte en banque, etc. Maintenant, le père, il s'est effacé. Ça veut dire que le père, il s'est mis dans une situation que cet enfant, peut-être, ne sait même pas qu'il a un père. Lui, pour lui, depuis qu'il est né, qu'est-ce qu'il a? Il a une carte. Il met la carte, ça sort.
Il connaît que 4 chiffres.
Exactement, il connaît que 4 chiffres, c'est tout ce qu'il connaît. Ah non, il paye des 6 chiffres alors.
Ah ouais, non, il paye des 6 chiffres.
Il connaît que 4 chiffres. Alors voilà. D'accord, vous voyez que dans mon exemple, évidemment, est farfelu parce que ça ne tient pas la route.
Ah, c'est bien.
Parce que l'enfant, à un moment, il va se poser des questions, il va dire, mais attends, je comprends pas. Pourquoi c'est farfelu? Parce qu'en vérité, à un moment, ça va s'arrêter. Et à un moment, il n'y aura plus. Donc il va comprendre. Il dit, oui, bon, il va aller voir la banque et dire, il n'y a plus d'argent dans votre compte.
Alors.
Mais là, imaginez que la carte, elle donne tout le temps. Elle donne, elle s'arrête pas.
Donc il prend conscience, quand même.
Donc là, l'enfant, il va jamais se poser de questions. Alors qu'en vérité, dans l'absolu, qui c'est qui remplit son compte? C'est son père. Mais lui, il ne le voit pas. C'est un peu ça ce qu'on vit en vérité.
D'accord. Ah, c'est bien.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est indépendant. Et bien, maître, on est indépendant. Je dis, voilà, je suis parti travailler, j'ai fait la part
moi
de
je,
ça.
Moi, je.
Je suis parti au distributeur. On te dit, mais qu'est-ce que tu as fait quand tu as travaillé? Quand tu as travaillé, tu as ouvert le porte-monnaie pour que ça rentre. C'est ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'Hachem, il t'a envoyé quelque chose, et toi, t'as ouvert le porte-monnaie pour que ça rentre. Il y a de la pluie qui tombe. Toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un récipient pour que ça rentre.
Ça va. D'accord. Ok.
Mais c'est lui qui te l'a envoyé. Mais c'est difficile à le voir, parce que quelqu'un va dire, mais attends, moi, j'ai pas vu que Dieu m'a donné. Moi, j'ai pas vu Dieu. Moi, j'ai vu que je suis parti travailler. Je me suis levé à 6 heures du matin. Je suis parti dormir à 2 heures du matin. J'ai vu que j'ai travaillé. J'ai travaillé très dur. C'est moi qui ai travaillé. Va m'expliquer maintenant que c'est Hachem qui m'a donné. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, quand il a créé le monde, il nous a donné une pseudo-indépendance. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression que tu es indépendant. Et je vais aller même plus loin. On peut avoir une personne que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a jamais pensé à Dieu. Quelqu'un qui... Mais c'est possible.
Mais
tu as des gens peut-être qui habitent dans des patelins, au fin fond de la France. Ses parents ne lui ont jamais parlé de Dieu. Il a grandi là-bas, il est mort là-bas. On ne lui a jamais parlé de Dieu, il ne s'est jamais posé la question. Dans sa tête, il connaît le pâturage, il connaît la vache, il connaît l'épicier, il connaît le boulanger, il connaît sa femme, il connaît ses enfants. Il s'est jamais posé la question, est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? C'est possible. Ça veut dire que Dieu se cache complètement. Mais, ce n'est pas parce qu'il se cache qu'il n'est pas là.
Ça nous cherchait.
Parce que s'il cessait d'être là et d'exercer cette force qui génère à chaque seconde cette indépendance, l'indépendance, ce serait immédiatement. Et si l'indépendance cesse, qu'est-ce qui se passe? L'objet devient haï, il devient nul. Voilà ce qu'on va expliquer aujourd'hui.
On revient,
C'est-à-dire, Edmond Razakin te dit, c'est ça le fondement de l'erreur. C'est que eux, ils pensent que Dieu, quand il a créé le monde, il y avait déjà une matière. Bon. Après, Big Bang, il a pris cette matière, il a modifié. Là, effectivement, si tu dis qu'il y a une matière qui est déjà préexistante et que Dieu modifie, ben Dieu peut se retirer, ça fonctionne. Tu dis, c'est faux. Il n'y a pas une matière préexistante. Dieu crée la matière. Et il lui donne un sentiment de pseudo-indépendance. Ce qui est contraire à la nature de cet objet. Parce que la nature d'un objet, c'est de vouloir toujours revenir à sa source. C'est la nature. Qui font quoi?
Comment dire qu'ils font une erreur? Finalement, on voit tous la même chose.
Ben, justement, l'erreur qu'ils font, je comprends ta question, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils n'acceptent pas que la création du monde n'est pas comme la création d'un objet. Mais je comprends ta question.
Mais parce que c'est justement, on voit ce que Dieu
dit. Il n'a pas, attention, je comprends ce que tu dis, ta question. Il n'a pas dit ce qu'ils font est un blasphème. Il a dit c'est une erreur. C'est une erreur. Non. Il dit l'erreur que font les imposteurs. C'est une erreur. Et pas de taout. Taout en hébreu, c'est une erreur. C'est gentil comme mot. Il dit pas, il utilise pas le mot, je sais pas comment dire, la méchanceté. Il dit l'erreur. C'est une erreur.
On a du mal à comprendre que c'est une erreur.
Pourquoi? Ah, seulement nous, qu'est-ce qu'on a de plus?
On a une
émouna. J'ai une émouna qui me dit, l'erolam Hashem vacha nitav bashamayim, que la parole d'Hashem est toujours en train de générer le ciel à chaque seconde. Mais c'est une émouna. Je comprends ta question. Je ne le vois pas avec mes yeux. Non, c'est pas, n'est pas là pour reprocher. On n'est pas là pour faire des calculs de la Vérode, de Mizot.
Mais d'accord, mais comment on peut reprocher alors, dans ce cas, de faire un compte de Avera ou de Mizot? S'il est né, il est mort, sans que personne ne lui ait parlé de Dieu, et que pendant toute sa vie, ses 20 ans qu'il a passé ici, comment on peut lui reprocher? Comment on peut espérer de lui, puisqu'on l'a fait venir sur Terre, qu'un de ces quatre, il ouvre un livre?
L'Admor Hazaken n'est pas ici dans une démarche de din, de tchouva. Ça, on a fait guérir ta tchouva avant.
D'accord.
Là, il est dans une démarche d'idéologie. Essayez d'expliquer pourquoi. Comment on peut comprendre le fait que d'un côté, c'est un paradoxe qui nous accompagne encore pendant plusieurs chapitres. Comment on peut comprendre que d'un côté, Dieu gère chaque seconde, chaque chose, et d'un autre côté, j'ai une indépendance? Voilà. C'est impossible.
C'est d'après ce que tu nous as dit dans le premier cours. D'accord. Tu nous as dit que dans la paracha Bereshit, entre le premier jour et vendredi,
tout est là.
Le film entièrement est écrit de chacun des habitants de la Terre, du premier jour jusqu'au dernier jour.
Alors, ta question
jour,
la semaine dernière. Où est le
Divarbi?
Ben voilà. Donc c'est ça.
C'est toujours la même question.
Même question. Bien sûr.
Ça reste pas. Hein.
Ça aurait été tellement plus simple de dire que Dieu a créé le monde et qu'il s'est retiré. Ah, c'est tranquille.
Ça tourne. C'est possible.
Il peut intervenir quand il veut.
Non, pas possible.
D'accord. On te dit non, c'est pas possible.
Ah, oui, c'est possible.
C'est pas possible. Parce que la création du monde est quelque chose qui est contre la nature. La nature de chaque objet, c'est de revenir à sa source, donc de revenir au néant. Donc pour qu'il y ait une existence, il faut qu'il y ait une force qui s'exerce constamment pour créer cette existence. Cette force, c'est Dieu. Mais d'un autre côté, Dieu se cache. Il faut une force constante qui le fait.
Et la renouvelle à chaque instant.
Il est obligé de la renouveler à chaque instant. Comme ma balle que j'ai ici, que si je renouvelle pas à chaque seconde la force,
elle tombe.
Il n'y a pas où aller. Bon, on va avancer un peu dans les mots. On a assez parlé. Alors, on est en bas de la page 37. On a fait déjà ces quelques lignes, mais on va les reprendre juste en bas. Page 37, en bas. À plus forte raison, en ce qui concerne la création ex nihilo, chez où les malamé ateva, quelque chose qui transcende la nature. C'est-à-dire, c'est pas une transformation d'un objet, comme ferait Philippe Sark. D'accord? C'est une transformation, on transforme la nature. Faut qu'on me l'explique. Chez où les malamé ateva, vehafleva fele yota mikretem souf. Quelque chose qui est beaucoup plus merveilleux que l'ouverture de la mer. Ça, on a expliqué longuement la semaine dernière. L'ouverture de la mer, on présente ça comme un grand miracle, et effectivement, c'est un grand miracle, puisque c'est un miracle qui a duré une nuit entière et pas qu'une fraction de seconde. Mais ça reste quand même un miracle dans lequel on a transformé une existence en une autre existence. Alors que le miracle de la création du monde, un miracle constant, un miracle permanent, est un miracle dans lequel tu transformes du néant en une existence, ce qui est normalement impossible. À la chat kama vekama, à plus forte raison, chez Beistal Kutkoach Abore Minanivra Chazveshalom, que si la force du créateur se retirer de la chose créée, chas veshalom, Dieu ne blesse, Yashu anivra le ain ve efes mamash, l'être créé retournerait au néant et au rien absolu. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ah oui, c'est logique. Ça veut dire que chaque chose revient à sa source. Or, l'origine de toute création, c'est de revenir au créateur. Or, pour revenir au créateur, tu retournes au néant. Donc, il nous faut une force qui s'exerce constamment pour forcer cet élément à rester créé, à rester pseudo-indépendant. Contre sa nature. Contre sa nature. Et là, seulement, c'est ce qu'il explique ici. Tsarich liot koach apoel benifal. Il faut une force agissante qui réside continuellement dans l'être créé. C'est une expression talmudique, ça. Koach apoel benifal. La force de celui qui agit dans ce qui est agi. Par exemple, j'ai un exemple. Quand je prends par exemple, j'ai pris un stylo, j'écris une feuille. J'écris avec le stylo sur la feuille. D'accord? À quel moment ma force s'exerce sur la feuille? À quel moment le koach, la force du poel, de celui qui agit, s'exerce benifal dans celui qui dans le résultat? La force s'exerce uniquement au moment où je suis en train d'écrire. Dès que j'ai fini d'écrire,
c'est fini.
Il n'y a plus le koach apoel benifal. Il n'y a que le nifal. Alors on va faire un peu dans la grammaire. Nifal, c'est le résultat. C'est ce qui a été actionné. Poel, c'est celui qui agit. Donc, normalement, ça, c'est ce qui a été actionné. C'est-à-dire qu'il y a eu une note de langue qui a été écrite, etc. Donc il y a eu un résultat. Maintenant, la force qui a été exercée du poel vers le nifal, la force qui a été exercée de celui qui agit sur le résultat, n'a duré qu'une seconde. L'imprimante, elle est passée, c'est fait. Maintenant, c'est fait, il est là. Maintenant, deux secondes. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, le koar apoel benifal, c'est-à-dire la force de celui qui agit dans le résultat, doit être constante, exactement comme ma balle. Dans ma balle, d'accord? Le koar apoel, la force qui agit, la force qui est exercée dans le nifal, le résultat, c'est quoi le résultat? C'est le verre qui ne tombe pas, le verre qui tient. Cette force doit être constante. Maintenant, moi je réfléchis pas comme ça, parce que moi dans ma tête, je dis bon, j'ai un verre dans la main. Mais concrètement, ce verre, pour l'attraper dans la main, tu exerces une force dessus. Et cette force est constante. Il suffit de relâcher une fraction de seconde, il tombe. C'est fini. Donc là, on voit un exemple concret que le koar apoel benifal, la force qui s'exerce dans le résultat, doit être constante. Même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Le achayoto ou le kaimo. Une force qui s'exerce constamment pour lui donner vie, d'accord, et existence continue. Bon. Ah, maintenant, on va s'arrêter un petit peu dans les détails. Comment ça se passe concrètement? Comment Dieu génère le monde à chaque seconde? Avec quoi Dieu a créé le monde?
Avec la parole.
C'est quoi la parole? C'est quoi la parole?
Il parle de Dieu.
Oui, il parle de Dieu. Hein,
alors là, il va toucher une
avec
question.
Avec la volonté.
Ok, deux secondes. Dieu, il a une bouche?
Non.
Bon, on dit comme ça, une bouche, une main, il a.
Alors,
transfiguré.
Pourquoi c'est imagé à la parole? Pourquoi c'est pas imagé à la main de Dieu?
Que l'homme comprenne.
Oui.
Voilà. On a pu comprendre.
Si déjà tu fais une image.
Là, il se met à notre niveau.
Parce que, en fait, la parole, c'est le résultat d'une pensée, d'une réflexion.
Non, mais je comprends, mais là, on va toucher à un sujet très intéressant. C'est une parenthèse qui va ouvrir, mais c'est une parenthèse très importante.
Pourquoi la parole, pas la main?
Et c'est des questions, encore une fois, qu'en tant qu'adulte, on se les pose plus. Mais quand tu étudies le Chumash avec un enfant, c'est des questions que l'enfant pose. Vayomer Elohim. Tu commences Bereshit, Vayomer Elohim. Dieu, il a dit. Mais est-ce qu'Hachem il a une bouche?
C'est
des questions qu'un enfant te pose. Tu dis, ça interpelle.
Il a parlé, parce que,
il a parlé, donc s'il a parlé, c'est qu'il a une bouche.
En même temps, ils ont bras.
Alors, mais deux secondes. Donc, Michael, il a répondu, il a dit, oui, on a bien compris, c'est imagé. Mais si c'est imagé, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de dire qu'il a dit. Dis, il a fait. C'est tant qu'à faire. Si c'est imagé, imagé pour imagé. Pourquoi l'énergie divine est comparée, l'énergie créatrice est comparée à la parole? Dans toute la Torah, c'est comme ça. Vaïdaber, Vaïdaber, Vaïomer, Vaïomer, Vaïomer.
C'est ce qu'on comprend le mieux.
Pourtant, des fois, dans la Torah, c'est qui? Vaïas, il a fait.
La parole, d'accord, c'est
oui. Mais vous prenez la paracha Bereshit, on nous parle de Asara Ma'amarot, les 10 paroles. Pourquoi paroles? Pourquoi des paroles? D'accord? C'est ce qu'il va expliquer ici. Donc là, en fait, il va nous expliquer comment, par la parole, Akadosh Baruch Hu est en train de générer le monde à chaque seconde. Et ça va nous permettre de comprendre un peu mieux pourquoi Dieu est obligé de renouveler le monde à chaque seconde. Vous verrez, on le verra différemment après dans le Yom Kippour. Le'olam Hashem Dvarcha Nitzav Vashamayim, que la parole de Dieu, Dvarcha, la parole de Dieu, est toujours présente dans les cieux, on le verra différemment. C'est-à-dire, on est en train de comprendre que la parole de Dieu, la parole créatrice qui a été dite il y a 5780 ans,
c'est la même
et elle doit continuer constamment. Pourquoi tu m'appelles ça une parole? Alors on va expliquer. D'accord?
Alors, j'ai envie de dire la force.
Mais pourquoi
l'énergie, pour la parole,
alors pourquoi cette énergie, je la compare à une parole? Pourquoi, quel rapport entre l'énergie et la parole? Ok. Déjà, est-ce que tout est clair jusqu'ici? Parce que là, on va ouvrir une grande parenthèse, donc je préfère que tout soit clair. Le point qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est la notion que puisque la création du monde est une innovation, elle doit être générée
constamment,
perpétuellement. Est-ce que c'est, ce point est clair? Sinon, on répète, oui. Il faut. D'accord?
Ça ne s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête jamais.
Comme un cours d'eau, quoi.
Il ne peut jamais s'arrêter.
Là, oui, le jour s'arrête,
non, c'est être... pas comme un cours d'eau.
Ah, un cours d'eau, ça ne
s'arrête. Non, parce que le cours d'eau, d'accord? Si la pression sur le cours d'eau s'arrête, par exemple, le cours d'eau, il avance, qu'est-ce qui va se passer avec l'eau?
Ça s'arrête.
Attendez, l'eau, elle va arrêter de...
Bah de circuler.
De circuler, mais...
Elle va stagner.
Elle reste là.
Ah.
Donc le mouvement va s'arrêter. Là, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Parce que, imaginez maintenant que Dieu arrête de générer le monde. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, dans mon imagination, je me dis, bah, peut-être ce qui va se passer, c'est que tout s'arrête, tu vois. Donc le monde, il reste là, le soleil, il reste là.
Mais tout ce qui est
maintenu, on te dit non. On te dit, c'est une erreur de penser comme ça. Parce que dans ce cas-là, tu es en train de dire que l'énergie divine assure seulement
le fonctionnement,
mouvement. Oui. C'est faux. L'énergie divine n'assure pas le mouvement.
Et la présence.
L'énergie divine assure l'existence, déjà.
Ouais.
Donc si Dieu cessait, ne serait-ce qu'un seul instant, de générer le monde, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aurait plus rien. Même rien, je ne peux pas dire, parce que rien, c'est déjà un espace, c'est déjà quelque chose. Ah oui. Tout est quelque chose. Ouais. Notre cerveau n'est pas conçu pour comprendre ce que c'est le vrai néant.
La réponse, c'est comme ça.
Que quoi?
Le temps, il appartient à la création.
Aussi,
ce qui est en dehors de la création, c'est-à-dire...
On pense qu'il y a rien dedans.
Oui.
Ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Mais donc ça veut dire que si nous ce que l'on perçoit comme une
indépendance,
pas une indépendance, une régénération constante et perpétuelle de chacun des instants et chacun des moments de la création, en réalité, c'est un seul et même effort qui, nous, on le perçoit comme éternel, et c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas et ça se repique à chaque fois. Mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est une action, une parole.
Alors, attention, tu viens de dire deux mots là. C'est ça, encore une fois, on revient au même problème. Une action, une parole.
Non, mais je suis obligé de le traduire.
Oui, voilà.
Je suis obligé de le traduire dans mon vocabulaire. Moi, j'ai pas son vocabulaire.
Donc voilà, donc, ça c'est la question. Pourquoi l'action d'Hachem est appelée une parole? Comment on dit? Ki ou amar vayehi. Ki ou amar vayehi. Car il a dit et ce fut. Ou Tsiva, il a ordonné Vayamod. Et ça s'est érigé. Pourquoi tu dis il a dit et ce fut? Pourquoi tu dis pas il fit et ce fut? Pourquoi la parole? Pourquoi toujours la parole? Qu'est-ce qu'on a avec la parole? On va expliquer. Alors, donc Vehen en Prinat, donc là je suis à la page 38, troisième paragraphe. On va accélérer un petit peu parce que je vais arriver à la question. Vehen en Prinat Otsiot Adibon Masara Mamarot Shebem Nivriou. Quelle est l'énergie divine qui régénère le monde à chaque seconde? Ce sont les lettres de la parole, des 10 paroles, par lesquelles ces êtres ont été créés. Donc les fameuses 10 paroles du début de la paracha Bereshit. Ve'alze Nehema, et sur ça il est écrit, on le dit tous les matins dans la prière, Vayivara David, Ve'ata mechaye et kulam. Il est écrit, et toi Kadosh Baruch Hu, Ve'ata mechaye et kulam, toi Kadosh Baruch Hu, tu fais vivre, tu les fais tous vivre. Intéressant comme terme. Il dit, et toi, Dieu, tu les fais tous vivre. Ça veut dire quoi, tu les fais tous vivre? On aurait dû dire, tu leur donnes la vie, tu les fais tous vivre. Ça veut dire que si chaque parcelle de ce monde, chaque élément de ce monde, s'il n'est pas généré à chaque seconde par un Kadosh Baruch Hu, il n'existe pas. Maintenant, la Morazaka va rentrer dans les détails. C'est quoi Ve'ata?
Et toi.
Et toi. Prenez le mot Ata, on va le décomposer. Ata, c'est Aleph, Tav, He. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet.
He, c'est la
Tav. C'est la dernière. Hé, c'est 5. C'est quoi 5? Donc apparemment, il y a quelque chose avec première lettre de la lettre bête jusqu'à la dernière. C'est 22 lettres. Et 5. C'est quoi Ve'ata? Allez, expliquez. Passez à la page suivante. Ve'ata, en prinata otiot, me alef attav. On va se concentrer un petit peu, mais on va expliquer. C'est quoi Ata? Parce qu'on dit tout. On dit Ve'ata, mechaye et kulam. Toi, Dieu, Ata, le Ata, il vivifie chaque chose. C'est quoi Ata? Ata, ce sont les lettres, mais Aleph à Tav, de Aleph jusqu'à Tav. Ve'ahe, i'e motzotapé, et le he fait allusion aux 5 organes de l'articulation. Donc on sait que, vous savez que l'articulation a 5 organes. D'accord?
Les yeux, la bouche, les
non, l'articulation.
La bouche.
D'accord? Il y a le palais, il y a le nez, il y a les lettres qui viennent par les dents. D'accord? Essayez par exemple de dire, noun, noun, noun.
Noun.
vous allez sentir que votre lèvre est en train de toucher vos dents. D'accord? Noun. Et c'est dire lamed. Là, vous voyez que la langue, elle fait le tour du palais. Et en fait, il y a cinq pistes. Cinq pistes différentes. Cinq. D'accord? Ici, vous avez le larynx, le pharynx, la langue, etc. Les lettres gutturales, etc. Enfin, on connaît les lettres, par exemple, aleph, e, chet, aïn. Il y a cinq groupes de lettres. Donc, ata, c'est quoi ata? C'est de aleph jusqu'à tav. Ça veut dire toutes les lettres de l'alphabet. En passant par he. En passant par cinq groupes.
Ah oui, d'accord.
Bon, mais sauf que ça nous dérange un peu tout ça. Parce qu'on est en train de matérialiser Hachem. Grave, là. On est en train de dire Hachem, aleph jusqu'à tav, etc. Donc il faut en fait qu'on explique un petit peu pourquoi on est obligé de parler toujours de paroles. Alors, comment on dit en hébreu une lettre? Comment vous dites une lettre en hébreu? Otiot. Au singulier, c'est ot. Comment on écrit ot?
Aleph.
Aleph, tav. Encore une fois. Comment j'écris le mot lettre? Aleph, tav.
Toute la famille.
Hein, je mets pas le vav parce que on peut mettre le cholamon. Donc ça fait aleph, tav. Mais que veut dire le mot ot en hébreu? Quelle est l'origine du mot hot? Alors, l'étymologie du mot hot, c'est même de l'araméen. Enfin, on compare ça à l'araméen. En araméen, ata, ça veut dire est venu. Par exemple, c'est écrit ata boker. Le matin est venu, le matin s'est dévoilé. C'est-à-dire que hot en hébreu, le mot hot en hébreu veut dire dévoilement. Lettre, c'est-à-dire ce que nous on appelle lettre en français, le mot hot en hébreu veut dire dévoilement. Donc là, on commence un petit peu à comprendre que quand l'objectif d'une lettre, c'est de dévoiler quelque chose qui existe déjà, de le dévoiler. Et dans le dévoilement, il y a 22 lettres. Donc il y a 22 pistes. Et dans ces 22 pistes, on les compose en 5 groupes. D'accord? Et après, on les compose. On les compose. Parce que par exemple, voilà, pour dire ton prénom en hébreu, Serge.
Avraham.
D'accord? On va composer des lettres. Aleph, Bet, Ré, on va composer. Donc on va composer les dévoilements. Donc là déjà ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que le hot, quand la lettre en hébreu est quelque chose qui exprime quelque chose. Exprime. Il y a un message qui est déjà présent et on l'exprime. C'est pour ça que dans la Torah, des fois on nous parle de la machashava d'Akadosh Baruch Hu, de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, et des fois on nous parle du dibour. Parce que c'est vrai, pour le même prix, on aurait dû dire Dieu pensa à la lumière soit et la lumière fut. C'est vrai. La pensée de Dieu ne serait pas créatrice. Pourquoi tu me compares ça à la parole? Qu'est-ce que tu as avec la parole? Parce qu'en fait, la pensée, par définition, c'est quelque chose qui est pour moi. La parole, c'est pour les autres. Quand je parle, qu'est-ce que je fais? Je parle pour dire aux autres que les mots que j'ai dans ma tête. En français aussi, on dit exprimer. C'est-à-dire quoi exprimer? Ça veut dire que quelque chose qui était comprimé en moi, je l'exprime, je le fais sortir. Maintenant, des fois, on parle tout seul. Hein? Et des fois, il y a des gens qui pensent à voix haute. Parce que des fois, des gens, ils essayent de s'exprimer à eux-mêmes. Mais en général, par définition, la machashava, c'est pour moi. Le dibour, c'est pour les autres.
Même de lire à haute voix.
Donc, lorsqu'on parle de dibour, pourquoi on compare la création d'Hachem, l'énergie créatrice, à la parole? Puisqu'en fait, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il crée quelque chose, il est en train d'exprimer quelque chose. Sauf que, on est un petit peu embêté. Parce que quand moi, je m'exprime à quelque chose qui est extérieur à moi. Je parle à Michel. Michel, c'est Michel, moi, c'est moi, donc je m'exprime à Michel qui est extérieur à moi. Mais Hachem, il n'y a rien qui est extérieur à lui. Donc il s'exprime à qui?
C'est ça la question.
Ça veut dire qu'on vient de dire que dibour, par définition, une parole, c'est quelque chose qui sort de moi.
Parce qu'il se parle à lui-même.
Mais dans ce cas-là, c'est machashava, c'est la pensée.
Parce que quand il prononce, quand il fait des choses, on n'entend pas, on ne le voit pas.
Oui.
Mais comme tu as dit, avec la matière, on le voit puisque.
Alors comment ça fonctionne?
Voilà, c'est ça. Comment on peut percevoir la chose?
Alors tout à l'heure, je vous ai donné la clé de la réponse.
Ah.
La clé de la réponse, c'est le mot pseudo. Tout à l'heure, j'ai dit pseudo-indépendance. Pseudo. Ce mot pseudo, il va nous sauver plusieurs fois dans la chaîne qu'on a mis là. C'est-à-dire que dans l'absolu, Akadosh Baruch Hu ne fait rien sortir parce que tout est en lui. Mais la façon comment c'est perçu par les créatures, c'est lui-même qui génère ce sentiment. On a l'impression qu'il y a une indépendance. Donc s'il y a une indépendance, ça veut dire que c'est un élément qui est, entre guillemets, pseudo-extérieur. On va expliquer, vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est un peu abstrait, je suis conscient. Mais c'est normal, parce que c'est des notions qui sont complexes. Ça demande beaucoup de réflexion. Mais c'est très important. Comprendre pourquoi on compare la parole d'Akadosh Baruch Hu.
Autant quand tu me parles, je comprends, tu aimais quelque chose.
Oui.
Je te vois, je t'entends. Mais d'essayer de comprendre que Dieu t'envoie, il te parle.
Non, moi je vais te donner. Moi j'essaie de comprendre les mots de la Torah. Moi j'essaie de comprendre les mots de la Torah. Tu me dis, Vayomer Elohim, Dieu a dit. C'est-à-dire quoi, Dieu a dit? Il a parlé.
Il t'a transmis sa pensée. C'est ça que ça veut dire, Dieu a dit.
Il a transmis à qui?
À toi.
Donc ça veut dire que c'est quoi la parole ?
C'est une transmission.
C'est un émetteur-récepteur.
On va expliquer. Attends, on va avancer.
Tu me parles.
Je veux pas qu'on perde le fil parce que c'est intéressant ce qu'il y a dans la suite. Donc, je suis au milieu de la page 39. Presque à la fin du chapitre 2. Ve'av she'en lo demut haguf. Bien que Akadosh Baruch Hu en lo demut haguf. Où on dit ça, en lo demut haguf? En lo demut haguf. Dans Igdal, très bien. En lo demut haguf. Dieu n'a pas d'apparence corporelle. Et il n'est pas un corps. Après on dit la bouche d'Hachem, la parole d'Hachem, etc.
On va comprendre alors.
Alors, bien sûr, on connaît la réponse de Rashi. Rashi explique ça plusieurs fois, que c'est une image. On dit la main de Dieu, on dit la bouche de Dieu, on dit etc. C'est une image. Parce que comme l'être humain, il connaît que des expressions physiques, donc on lui donne des exemples physiques. Mais ça n'empêche pas que la Dora Zaket apprend un grand chidouche ici. Je dis, pourquoi on te dit une fois la main de Dieu, une fois on te dit la bouche de Dieu, etc. Parce qu'on veut que tu compares une expression divine à un phénomène que tu connais déjà. Quand on te dit, par exemple, on te parle d'action d'Hachem, ça veut dire que c'est une énergie divine qui est vraiment descendue très bas. Une énergie divine, Asiya, une énergie divine qui s'est matérialisée, beaucoup. Quand on te parle de parole divine, c'est la même façon que moi, quand je parle et j'agis. C'est pas la même chose. Je parle, je commence à extérioriser, j'agis, j'ai vraiment extériorisé. La même façon pour un Kadosh Baruch Hu, t'as deux phases. Et la même façon, moi je pense, des fois aussi Hachem y pense, c'est-à-dire qu'il n'a pas extériorisé. Kaverol. Ce que veut dire aussi la Gemara Zaken. Bien que Dieu n'ait pas d'apparence corporelle, comment on peut parler de l'être chez Akadosh Baruch Hu? Arei mikra male diber akatuv. La Torah dit clairement à chaque fois, vaidaber Hashem, Hashem a parlé, vaiyomer Hashem, Hashem il a dit, vaidaber, vaiyomer. Vehi prinat idgalut achavbet otiyot elyonot la nevim. Tu dis en fait, quand on dit Hashem il a parlé, c'est de quoi il a parlé? Qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Par exemple, voilà, il y a des fois Hachem il parle, mais il parle pas à quelqu'un, il parle au monde, à l'univers, comme dans Bereshit. Des fois Hachem il parle à quelqu'un. Vaidaber Hachem Moshe il est mort. Tu sais, il a parlé à Moshe en disant qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit par exemple, dis au Bnei Israël de faire Yom Trois, de sonner le shofar Rosh Hashanah. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu. Est-ce que Hachem il a dit des mots à Moshe Rabbeinu?
Il
a transmis. Ou est-ce qu'il y a une information qui est tombée dans la tête de Moshe Rabbeinu? Il te dit, ici, Edmond Razakain, il te dit, à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe exactement les mots qui sont écrits dans la Torah. Pourquoi? Parce que ces mots, écoutez bien, sont des combinaisons qui correspondent à l'énergie divine. C'est-à-dire qu'Hachem veut transmettre une énergie divine qui s'appelle le shofar. Il y a une combinaison qui correspond au shofar. Il y a une mitzvah, donc il y a un concept qui s'appelle le shofar. Maintenant, c'est pas que Moshe Rabbeinu s'est levé un matin, il dit bon, hop, il a sorti un shofar, il dit bon, maintenant moi je vais mettre dans des mots humains, je dis voilà, faites un shofar. Les mots que Moshe Rabbeinu te dit sont correspondent à la combinaison, parfaitement à la combinaison qu'il a reçue d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit les mots tsav, tzadik, vav, le tzadik correspond à une certaine combinaison, le vav à une autre combinaison, et le tzadik et le vav ensemble correspondent à quelque chose, et tout ça génère une énergie. Maintenant, nous, évidemment, on le voit pas comme ça. Parce que moi, quand je lis un texte qui est intelligible. Donc je dis, j'ai pas vu un texte de code. Je vois pas des codes devant moi. Moi, je vois un texte qui est clair, comme, Monsieur Reuven aurait parlé à Monsieur Shimon, je me dis, peut-être Moshe Rabbeinu nous a transmis avec des messages qui est écrit. Je dis, l'Admor HaZaken, c'est faux. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu le message. Maintenant, il y a plusieurs façons. Des fois, directement, Akadosh Baruch Hu, il donne le message au Navi, c'est-à-dire qu'il donne le message dans des mots, c'est-à-dire qu'il le donne directement à la combinaison. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il donne pas directement les mots. Il donne une image. C'est-à-dire, c'est un rêve. Un peu comme une image cryptée, d'accord? Et après, il faut faire parler l'image. C'est-à-dire, il faut essayer de convertir cette image en des mots. Mais c'est pas ce terme des mots. Ça veut dire exprimer, essayer d'exprimer cette image qu'il a vue avec des mots qui correspondraient à l'énergie divine qu'il a vue. C'est un poste extrêmement complexe. C'est-à-dire, c'est pas juste, on n'a pas juste quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'imagination. Un avis, c'est pas quelqu'un qui a une imagination qui est développée. Que bon, il a vu des trucs, il te raconte, selon la substance qu'il a pris, il va te raconter, j'ai vu les étoiles, j'ai vu un piano et j'ai vu ci. Un Navi est une personne que soit Dieu lui a donné directement le mot à dire, donc là il a directement le mot, l'énergie, ou soit il voit une image et il va traduire cette image dans des mots qui correspondent à l'énergie divine qu'il a vue. Parce que faut pas oublier aussi un point très important qu'on avait expliqué ça avant les vacances, que le Lashon HaKodesh dans la langue hébraïque, c'est pas une langue de convention. Ça, c'est pas une langue que ça rassemblait, on a décidé que ça on appelle une table et ça on appelle une chaise. Maintenant, ceux qui ont conçu la langue française, le latin, etc. avant, auraient pu décider que ça s'appelle une chaise, et ça s'appelle une table. ça aurait marché. Ce qui compte finalement, c'est quoi? C'est que les gens se comprennent. Qu'ils soient codifiés, qu'on se comprenne, c'est tout. Mais le mot chaise, dans le mot chaise, tu vas pas trouver l'origine de cette chaise. Tu vas pas trouver l'origine de l'énergie de cette chaise. C'est d'accord? Parce que c'est pas fait pour. C'est une langue qui est conçue par les hommes. Et c'est pour ça que cette langue évolue. C'est normal, parce que comme les hommes évoluent, la langue évolue. Ok? La communication des hommes évolue. Mais le Lachon HaKodesh, c'est pas comme ça. Je parle même du Lachon HaKodesh, je parle pas de l'ivrite. L'ivrite, c'est l'hébreu moderne. L'hébreu moderne évolue. D'accord? Mais je parle du Lachon HaKodesh, qui ne peut pas évoluer. Parce que par définition, le Lachon HaKodesh, chaque mot en Lachon HaKodesh correspond parfaitement à l'énergie divine qu'Hachem a utilisée pour générer cet élément. La Gemara Zaken a donné un exemple. Il dit par exemple, allez, comment on dit en hébreu une pierre?
Even.
D'accord? Où le mot Even est écrit dans la Parasha Bereshit?
La création, tout début.
C'est pas écrit. Cherchez dans la Parasha Bereshit le mot Even, c'est pas écrit. Alors d'où vient le Even? C'est une combinaison de lettres. Ah. On prend le Aleph de là, le Bet de là, le Nun de là. D'accord? Chaque pierre a sa combinaison. Aleph, Bet, Nun. Avec les 300 façons de combinaison possibles, etc., qu'on a expliqué avant. Maintenant, c'est pas juste une combinaison pour te ouvrir un code. C'est une combinaison qui correspond à l'énergie divine qui descend pour générer cette pierre.
Oui, parce qu'en vérité, Even, à un haut niveau, c'est pas Even le mot.
Eh oui, parce qu'en vérité, à un haut niveau, Even, c'est une énergie. Et donc, le Aleph, ce qui te dit, c'est le Morazaken. Tu dis, le Aleph, c'est une certaine énergie. Le Bet, c'est une autre énergie. Le Nun, c'est une autre énergie. Et la combinaison des trois fait une énergie qui correspond à l'énergie qui est dans la pierre. L'énergie qui est dans la pierre correspond, en mode codifié, mais elle correspond au Even. Donc, ça veut dire, si vous voulez, le Lachon HaKodesh.
On peut pas le changer,
là. Justement, on peut pas le changer. On peut pas le changer. Le Lachon HaKodesh, il a un double emploi. D'abord, le premier emploi qu'il a, c'est vivifier les choses, c'est vraiment t'apprends le code pour générer les choses. Et le deuxième emploi qu'il a, la Lachon HaKodesh, c'est de permettre aux gens de se parler. Le problème, c'est que nous, on s'arrête au deuxième aspect, on dit, bon, ben, je me parle avec ça, donc finalement, c'est une langue comme les autres. On te dit, non, c'est pas une langue comme les autres. Dans la Lachon HaKodesh, Shulchan, c'est une table, ça peut pas être une chaise. On peut pas changer. Parce que dans le mot Shulchan, Shin, Lamet, Chet, Nun, t'as la combinaison. Et c'est pour ça, des fois, tu vas voir un tzadik, il va te dire, rajoutez un nom. Les gens, ils sont rajoutés un nom. C'est les choses qui sont extrêmement précises. C'est-à-dire, on rigole pas avec ça. Mais tu dis, il m'a pas dit tous les noms, il manque un nom. Parce que c'est l'énergie divine. Il manque quelque chose, d'accord? C'est comme l'ADN. Il te manque un truc, t'as rien. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Even. Donc, on a ici 22 lettres. 22 lettres qui sont 22 énergies différentes. Chaque lettre en soi est une énergie. Maintenant, la combinaison des deux éléments forme encore une autre énergie. Et la combinaison de trois éléments forme encore une autre énergie. Et ça dépend où t'as pris le Aleph, et où t'as pris le Bet, et où t'as pris le Nun, ça va former encore une autre énergie. Comme une combinaison. Tu vas prendre de l'eau de Paris, ou tu vas prendre de l'eau de Thaïlande, c'est pas la même eau. Tu comprends? Le coca que tu vas faire, ce sera pas le même coca. Donc, de la même façon, tu vas prendre dans la Parasha Bereshit, tu vas prendre le Aleph d'ici, tu vas prendre le Aleph de plus tard, c'est pas le même Aleph, c'est pas la même création. C'est autre chose, c'est une autre énergie. C'est un concept qui est le même. Even, Aleph, Bet, Nun, mais c'est pas la même chose. Donc, la Gemara Zaken va nous expliquer ici, à quel point, Akadosh, le hot, les lettres, quand on parle de lettres et quand on parle de dibour d'Akadosh Baruch Hu, c'est une expression. C'est l'expression par laquelle Akadosh Baruch Hu exprime son énergie, cette énergie qui, au final, va créer ce monde. Et créer chaque parcelle de ce monde à chaque instant. Parce que tout est énergie. Donc, d'où vient cette énergie? Baruch Hashem, aujourd'hui, avec les efforts qu'on fait dans la science, ça nous aide à comprendre ça un peu plus. D'accord? Avec notre cerveau, notre intellect. Comprendre que tout est énergie. Quelle est l'énergie? C'est quoi cette énergie? Il nous manque un pas maintenant. C'est de faire le pas de dire cette énergie c'est Dieu. Les photons et les microns et les atomes, etc., etc. Après, plus où tu vas arriver? C'est Dieu. C'est que c'est Dieu.
C'est lui qui compose tout.
C'est quoi c'est?
C'est lui qui compose tout.
Chaque seconde.
Toute la matière est faite par
chaque énergie est composée chaque seconde par le cadre de l'eau. Voilà. Donc c'est ce qui se passe chez un navi. Lorsque Dieu parle à un navi, à un prophète, c'est pour ça que dans la chaîne Kodesh, ça aussi on explique aussi aux enfants, surtout quand ils démarrent, on explique que chaque mot est très important. Que chaque mot, il y a une kidoucha spéciale. Eh, crois, bon, c'est pas un roman que tu lis. Dans un roman, il y a plusieurs façons de dire quelque chose, de dire un message. Tu peux passer par là, tu peux dire tel mot, Bon, il y a les synonymes, il y a les phrases, il y a une exactitude, etc. Mais bon, grosso modo, le message peut passer. Chez Akadosh Baruch Hu, ce qui compte, c'est pas seulement de transmettre un message. C'est l'énergie qui est transmise. Donc, t'as modifié l'énergie, t'as tout changé, t'as tout fait sauter. T'as modifié le code, t'as modifié l'ADN, t'as tout fait sauter, c'est terminé. Voilà pourquoi on fait très très attention au dic-douc. La façon comme les choses sont écrites, la façon comme les choses sont dites, c'est très précis. Et c'est comme ça que Dieu parle au Nevi'im, au prophète. Un prophète doit répéter à l'identique ce que Dieu lui a dit. Au mot près. Ce qui se rappelle, évidemment. Il doit répéter au mot près, à la lettre près. Parce que c'est précis. Il y a une énergie divine qu'Hachem lui donne. Vegam, ve marshaftam, ve diburam. Je suis en bas de la page. Vegam, ve marshaftam, ve diburam. Au kumash ketuv, roach Hachem diberbi, ou milato al-leshoni. Le prophète Samuel, le prophète Shmuel Hanavi, là-bas, il dit la chose suivante. Il dit, l'esprit de l'éternel a parlé en moi, et son verbe repose sur ma langue. L'esprit de l'éternel a parlé en moi, et son verbe repose sur ma langue. Donc là-bas, les commentaires posent la question, ils disent, mais je comprends pas. C'est l'esprit de l'éternel, ou c'est le verbe de l'éternel? L'esprit, c'est la pensée. Le verbe, c'est
la parole.
De là, explique l'Admor HaZaken, de là, on comprend qu'il y a plusieurs façons comment un Kadosh Baruch Hu se dévoile à un avis, un prophète. Des fois, il se dévoile en pensée, c'est un esprit. C'est-à-dire, c'est flou. Hachem n'explique pas au prophète comment décrypter. Des fois, Hachem est plus explicite. Il lui montre un message clair, avec des mots. Des fois, Hachem est encore plus explicite. Il lui montre une action. Il dit, voilà le résultat qu'on attend. C'est quand même vraiment Hachem à tout donner. Mais des fois, Hachem donne quelque chose de très très flou. C'est-à-dire quelque chose qui est le début d'une pensée. Tu sais, des fois qu'on a une pensée comme ça très très flou, on n'arrive pas à voir. Des fois, c'est ce que le prophète voit. Il doit faire un effort ardu pour essayer de décomposer, de décrypter ce qu'Hachem lui a donné.
Comment il fait alors qu'il a compris?
C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question.
Il a compris quoi?
C'est pour ça que c'est une excellente question. C'est vrai, parce qu'il peut se planter. D'accord?
Oui.
C'est pas seulement, je vais pousser ta question plus loin.
Oui.
C'est pas seulement comment il sait. C'est comment nous on sait qu'il a bien compris. Parce que, lui il sait, ça n'engage que lui. Mais lui il me dit quelque chose, il me dit fais ça, pars en guerre, vas-y, voilà. Qui me dit à moi qu'il a bien compris?
Nous on sait aussi s'il n'est pas schizophrène.
Ah oui, on sait ce qu'il n'est pas schizophrène. Alors il faut une aide à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, d'abord à l'époque il y avait des écoles de prophètes. C'est sérieux?
Oui, bien sûr.
Pour apprendre à capter les messages, bien sûr. Pour apprendre à comprendre les messages. Tout est dans le décryptage. C'est comme aujourd'hui, vous avez par exemple, aujourd'hui on est, ils appellent ça aujourd'hui le big data. Aujourd'hui on est dans une génération dans laquelle on a énormément d'informations. On a des informations partout. C'est-à-dire juste, tu vas aller à Franprix en face, tu vas acheter, d'accord? Avec juste, si t'as fait avec ta carte de crédit, t'as utilisé la même carte de crédit, on a déjà créé un profil sur toi. On sait qui tu es à peu près. Selon le produit que t'achètes, on sait à peu près quel âge tu as, est-ce que t'es un homme, est-ce que t'es une femme. On sait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations, on ne sait plus quoi en faire. On n'arrive pas à les traiter. Aujourd'hui, l'avenir appartient à ceux qui savent traiter les informations. Les images satellites, il y en a. Il faut les faire parler. Il y a une image satellite de l'Iran, on te montrait ça hier. Et là, il y a une nouvelle image satellite qui te montre autre chose. Qu'est-ce qui a changé?
Ça a disparu.
Qu'est-ce qui a changé?
Ouais, ça les rend fous, ça.
Bon, alors voilà, revenons aux choses sérieuses. Donc, de la même façon, le Navi, des fois, Hachem, il lui montre une image. Il lui montre un bâton, il lui montre deux bâtons, il lui montre un bâton qui se bat avec un bâton. Un bâton rouge contre un bâton bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as compris? Et le bâton rouge, il avalait le bâton bleu. Qu'est-ce que je comprends pas? Et ça correspond à quoi? Donc, ça, c'est le rôle du Navi. Le rôle du Navi, c'est de décrypter. Et en fait, plus on est un grand prophète, et plus Hachem nous parle clairement. Les Nevi'im de bas niveau, Hachem leur donne une image et il leur dit cassez vos lettres pour décrypter comme vous pouvez. Mais les Nevi'im comme Moshe Rabbeinu, Hachem leur donne le message. Il dit voilà, tac, c'est ça le message. Parce que les autres Nevi'im ne sont pas conçus pour avoir le message clairement. Ils n'arrivent pas. Ils explosent sinon. Donc il faut leur donner quelque chose avec, on ne voit pas, une toute petite goutte. Et on dit vas-y, essaye maintenant de comprendre, de développer. Moshe Rabbeinu, tu lui parles en direct. Mais on revient toujours au même concept. C'est quoi la Nevoah? D'ailleurs, quelle est l'origine du mot Nevoah? Nevoah en hébreu, ça veut dire prophétie. Quelle est l'origine du mot Nevoah? Niv. Niv Sfataim. Le mouvement des lettres. Nevoah est égal parole. On revient toujours à la même idée. Ce que veut expliquer ici l'Admor HaZaken, c'est que la parole est synonyme en hébreu d'expression.
Oui.
Expression d'une idée, expression d'une énergie, expression.
C'est ça. Même en français, c'est pareil.
Alors maintenant, bien sûr. Maintenant, avec ça, on va comprendre. Lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la
parole. Par 10 paroles.
Prends parole de parole. Prends parole de pensée. Oui. Prends parole pas d'action. Prends parole de parole. Maintenant, on comprend. Parce que les lettres, une lettre, c'est de l'énergie. Maintenant, la lettre, elle peut être pensée ou elle peut être dite. Lorsqu'elle est pensée, ça veut dire que tu la gardes pour toi. Lorsqu'elle est dite, ça veut dire que tu l'extériorises. Donc, si Hachem avait créé le monde uniquement en pensée, le monde n'aurait pu y avoir d'indépendance, de pseudo-indépendance. Parce que tu gardes en toi. Si tu gardes en toi, donc ça reste interne. C'est pas extériorisé. Donc c'est ça le mot, c'est ça l'origine du mot, expression. D'accord? Et d'ailleurs, tout démarre par Bereshit Bara. C'est ça, Beria. Beria, c'est ça la création. Beria, la création, c'est cette notion de d'extérioriser.
Donc,
Bereshit, oui.
Donc, au début, quand il a créé les animaux d'abord. Donc, il a aussi une expression spéciale pour qu'ils comprennent.
Non, c'est un timing, ça. C'est autre chose.
Oui, mais sinon, il n'aurait peut-être pas, il va pas parler aux animaux. C'est pas une impression.
La Gemara répond à la question. La Gemara dit comme ça. Elle dit, vous savez pourquoi Adam il a été créé en dernier? La dernière chose qu'Hachem a créée dans le monde, c'est Adam. La dernière.
Il a créé d'abord
les animaux. C'est quand même fou. La dernière chose que Hachem a créée, c'était Adam. Pourquoi? Parce que la Gemara dit comme ça. Elle dit comme ça, voilà le message qu'on va donner à l'homme. On va lui dire, écoute, si tu te comportes bien, on va dire que toute l'humanité a été créée pour toi. Comme la star. Toi, t'arrives en dernier, en 30 ans en tôt, etc. Tout est prêt. La star, elle arrive, la table est déjà prête. On attend que lui. Tous les invités sont là. D'accord? C'est le cas. Donc Hachem, il te dit, je t'ai mis en dernier parce que t'es la star. Shulchan Aruch. C'est-à-dire quoi, Shulchan Aruch? Une table dressée. T'es venu, la table était mise. Ça, c'est si tu te comportes bien. Mais si tu te comportes mal, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire, tu sais quoi? A filou, il y touche. Même le moustique, il était créé avant toi. Pourquoi on dit même le moustique? Le Zohar, il dit parce que le moustique, c'est la pire des créatures. Parce que les autres créatures, elles ont une porte d'entrée, une porte de sortie. Ça veut dire, ça veut dire qu'ils prennent et ils donnent. Peu importe qui, mais il prend et il donne. Les excréments, mais il donne. Le moustique, il donne rien. Il bouffe, jusqu'à qu'il meurt. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a des variantes de moustiques, j'en sais rien, mais le moustique, c'est-à-dire le moustique qui pique, il pique, jusqu'à qu'il meurt. C'est-à-dire, c'est quoi le concept? C'est-à-dire que le moustique, il dit, je vais te bouffer, je suis prêt à mourir pour te bouffer. Je n'ai rien à faire. D'accord?
Et d'ailleurs.
Dans son système, il pense avoir des choses. Alors. Et ça, on te dit, donc ça c'est le moustique. Alors on te dit, celui qui se comporte mal, on dit, tu sais quoi? Même le moustique, qui lui prend tout et donne rien, il a été créé avant toi. Ça veut dire, toi, en d'autres termes, t'es le dernier, on t'a créé à la fin, dit, bon, ah oui, fallait créer aussi Adam. D'accord? Ça, c'est pour répondre à la question. Pourquoi Adam a été créé en dernier? Ça, c'est juste une question de timing, ça. Pourquoi il a été créé en dernier? Mais ce qui est clair, c'est que, dans la Mahashava, et là, on revient encore une fois à la même chose. Dans la Mahashava d'Akadosh Baruch Hu, dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, avant, dans le plan d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Dieu a créé en premier?
Les animaux.
Non. Dans la pensée.
Ah, dans la pensée.
Écoutez pas ce que je dis. Quelle est la première chose qu'Hachem a créé?
L'homme.
Dans la pensée.
On ne sait pas.
La
création.
Si, on sait, sur pensée.
L'univers.
Première chose qu'Hachem, ça veut dire comme ça. Il y a une création dans la parole, dans l'action, c'est-à-dire Hachem, il a créé.
On
fait un accès à la terre. 25 Eloul, ou Nissan, 5700, ça fait 5780 ans.
Le but final, c'est
ça, c'est le Dibour. Ça, c'est la parole. Mais avant le Dibour, 6 mois avant, enfin, si on peut parler de moi, il y avait Mahashava. Dieu a créé le monde dans la pensée. C'est comme quand tu fais un projet. Avant de réaliser le projet, d'abord.
Oui,
t'es pas un imbécile. Les imbéciles, c'est les gens qui sont dans un projet, disent bon, on verra, on navigue à vue.
Non,
quelqu'un qui est intelligent, il a d'abord Mahashava, le business plan. Dans la Mahashava d'Akadosh Baruch Hu, quelle est la première chose qu'Hachem a créée? Non.
Le plan.
Israël.
Il y avait une discussion, non?
Non, justement. Le Midrash pose la question, Talmud Vélio pose la question, et dit, la première chose qu'Hachem a pensée, c'est quoi? Israël. Israël, le juif. Après,
c'est
il a dit.
Ce qu'on a dit.
Donc, d'abord il y avait Israël. Après, il a dit, il faut un système pour Israël, c'est la Torah. Et après, autour de ça, il faut un écosystème avec un monde, etc. Maintenant, dans les faits, c'est pas dans cet ordre que Hachem a créé. Mais ça, c'est pas grave. C'est comme quand tu vas créer une entreprise. Ton but, ton objectif, c'est quoi? C'est de gagner des sous. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à payer des loyers, tu vas commencer à faire de la peinture. On dit, ah, t'as créé l'entreprise pour faire de la peinture? Tu dis, non, pas du tout. Mais c'est, alors quoi, pourquoi tu fais de la peinture? Ben, c'est normal. C'est qu'il y a des étapes. Hachem aussi avait des étapes. Mais, dans la tête, dans la Mahashava, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Israël. Donc, vous voyez, là, on comprend parfaitement cette notion de dibour, de parole. Que le dibour, c'est la dernière étape dans le plan d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'étape de la création effective. De l'expression. Ok? Maintenant, d'un autre côté, on ne veut pas employer le terme action pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? D'accord? Parce que le terme action est un terme qui est trop matériel. Donc si on dit action, c'est-à-dire que Dieu, il a construit comme les autres. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il te dit? Comment le roi David, il a résumé ça? Qui? Ou Amar Vayehi. Car il a dit, et ça a été fait. Comme on a dit aussi, Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. Il n'a pas dit par la parole de Dieu, les cieux ont été dits. Par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. C'est-à-dire que la parole de Dieu est créatrice. La parole. Ok, c'est exactement ce qu'on va dire ici. C'est le passage qui cite ici. Donc, c'est un passage qui est écrit dans le Tehilim, Tehilim 33. Je suis en haut de la page 40, troisième paragraphe. Qui est dire Tiv, comme il est écrit. Bidvar Hashem Shamaim Narasu. Par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. Hein? Faits. Donc, on voit, on mélange les genres ici. Par la parole, les ciels ont été faits. Pas dit. Pas créé. Faits. Ouvroir Piv, Koltsevaam, et par le souffle de sa bouche, toutes leurs armées. Les armées, ça veut dire toutes les variantes, toutes les nuances qu'il y a dans le monde, ont été créées par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Rak, seulement. Shehi, Aliede, Ishal, Shilut, Rabot, Vatsumot. Seulement, nous, quand on lit ce chapitre, on se dit, ah ben, c'est facile, on a compris. Dieu, il a parlé, tatata, ça a été créé, etc., donc c'est facile. Tu dis, sauf que, ce que tu oublies, et c'est ce qui complique les choses, c'est que cette création s'est passée par Ishal, Shilut, Rabot, Vatsumot, par de nombreuses et puissantes descentes. Ça veut dire comme ça. C'est pas directement Hachem, il a dit un mot. Comment ça se passe quand Hachem, il dit un mot? Chaque fois qu'Hachem, il dit un mot, ça veut dire que c'est une énergie qui descend. Maintenant, l'énergie ne descend pas qu'une fois. Elle descend plusieurs fois. C'est comme une conversion, en vérité. Vous savez, quand tu prends un élément, tu convertis une fois, et deux fois, et trois fois, et tu convertis, à la fin, le résultat final est vraiment filtré. C'est ça, en vérité, l'otiote que nous, on a. Imaginez par exemple, vous avez la lumière du soleil qui est filtrée par un rideau, après elle est filtrée par autre chose, et par autre chose.
C'est le processus.
Et donc, en vérité, ce qu'il dit le Morazaken, c'est que toi, quand tu entends le mot Even par exemple, toi tu crois que le mot Even correspond à l'énergie en direct qu'on a reçue d'Akadosh Baruch Hu. Ce que tu n'as pas compris, c'est que cette énergie, avant d'arriver au mot Even, elle est passée peut-être par 1000 combinaisons et 1000 conversions. D'accord? Ça veut dire qu'après, je ne sais pas qui pourra remonter jusqu'à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'elle était diluée, tout ça pourquoi? Pour à la fin arriver à la quantité de la plus infime d'énergie possible. Pour réussir à cette équation, d'un côté avoir une création qui fonctionne, et d'un autre côté avoir une pseudo-indépendance. D'accord? Ça, c'est ça en fait l'objectif. C'est que l'énergie divine soit tellement floutée, au point que celui qui est là, il peut dire mais... J'ai pas besoin de mon père pour le distributeur, je vais tout seul. Je vais au distributeur, je me tiens.
Du cryptage.
C'est-à-dire que le père, il s'est caché dans un rideau, au point que le père, tu ne le vois plus. Tu peux croire qu'il n'est pas là. Il n'existe pas. Il est mort. Il n'existe pas, il n'a jamais existé. Alors que c'est faux. Parce qu'il s'est voilé. Ce qu'il dit, c'est le Morazaken. Achiordot la si agoufanit, ma chaîne, ken asagat anevim, batibut avec la béchette, bolam abéria. Donc, comme ça, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais il explique ici la différence entre la parole de Dieu à un prophète et la parole de Dieu pour créer le monde. Parce que finalement, dans les deux, c'est de la parole. Alors, pourquoi un prophète est un homme d'exception pour capter ce que Dieu y dit, alors que d'un autre côté, lorsque Dieu y dit à chaque seconde que la lumière soit, ben là, tout le monde capte la lumière. Pourquoi cette différence? Le Morazaken te dit, c'est très simple. Tu dis parce que lorsque Dieu il a dit que la lumière soit, c'est une énergie divine qui est descendue jusqu'à Asiya, jusqu'à l'action. C'est-à-dire qu'elle est descendue. Elle a été convertie, décryptée, jusqu'à qu'elle arrive à Asiya. Jusqu'à qu'elle arrive à une quantité infime. Vous savez qu'on avait parlé plusieurs fois de ça, que dans les sphères célestes, il y a quatre dimensions. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. D'accord? L'émanation, la création, la formation et l'action.
On
n'en
parle pas souvent de ces mondes-là.
Pas assez. Alors, jamais assez. Donc, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Alors, nous autres, on est dans Asiya. On est dans le monde de l'action.
Ok.
Les prophètes sont dans quel monde? Dans le monde de Beria, le monde de la création. Rappelez-vous, émanation, c'est le monde où tout est abstrait. Après, il y a la création. Après, il y a la formation, les choses prennent forme. Et après, il y a l'action. Nous, on est dans le monde de l'action. Et c'est là que l'énergie divine arrive pour nous générer à chaque seconde. Donc, c'est l'énergie qui est ultra filtrée au point qu'on ne voit pas Hachem. Ça veut dire que ce que je dis, on ne voit pas de seconde. Je vais être clair. Ça veut pas dire qu'on peut pas le voir. Tu peux le voir. Mais il faut chercher loin pour le voir. Des fois, tu le vois pas. Quelqu'un peut passer une journée entière sans avoir vu Dieu. Il n'a pas vu. Parce que quand tu es dans le monde de Asiya, tout est filtré. Au point que tu vois pas. Par contre, lorsque Dieu s'adresse à un avi, à un prophète, il s'adresse pas au niveau 4. Il s'adresse au niveau 2. Ça veut dire, le niveau 2, c'est Beria. C'est le début de la création de la parole. Et c'est là que Hachem va s'adresser au navi. C'est pour ça que, effectivement, le navi, il faut être en mesure de capter ces informations. D'un Kadosh Baruch Hu, c'est une information que pas tout le monde peut capter. Certains peuvent capter, d'autres peuvent pas capter. C'est la seule différence. Mais dans le concept, c'est la même chose. Dans le concept, Dieu qui parle à un prophète, ou bien Dieu qui a créé le monde, c'est la même chose. Donc quelque part, ça veut dire que nous sommes tous prophètes. Je vais rentrer ce soir chez vous à la maison, ta femme va dire alors qu'est-ce que t'as appris?
Je suis prophète.
J'ai appris que je suis prophète.
Vas-y, bon,
viens, on va t'interner. Mais c'est la vérité. Ouais. Quelle est la différence? Le prophète, il capte des messages de Dieu.
J'ai une question.
Or, moi, je capte de l'énergie divine qui me génère, donc c'est la même chose.
Bien sûr, c'est mon exemple.
Puisque toute parole est énergie. Et parole est synonyme d'énergie. Donc juste, je termine le raisonnement. Ce qu'on a voulu expliquer dans cette deuxième partie de, cette dernière partie du chapitre 2, c'est la notion du dibour. Que lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde à chaque seconde, et que l'énergie divine est constante, le Kohar Apol Benifal est constant, on compare ça souvent à la parole. Pourquoi la parole? Parce que la parole est l'énergie. Avec ça, on comprend pourquoi le pasouk le plus populaire, le plus fréquent dans la Torah, c'est quoi? Vaidaber Hashem, Vaiomer Hashem, Vaidaber Hashem. Des fois, dans la Torah, hein, on parle de la main de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de la parole d'Hachem, c'est-à-dire qu'Hachem, il descend, mais que sa manifestation reste quand même... Pas limitée, c'est-à-dire qu'elle reste quand même un petit peu détachée, un petit peu abstraite. D'accord? Mais quand c'est écrit Yad Hachem, la main d'Hachem, là, ça veut dire qu'il descend direct et on voit clairement sa main. C'est exactement comme pour un être humain. Quand on dit il a parlé, bon, il a parlé, c'est abstrait. Quand il fait quelque chose avec ses mains, on dit ah, tout le monde a vu que c'est lui. De la même façon. Il y a des fois, on dit que Yad Hachem, on a vu la main d'Hachem. Et des fois, on dit on a vu la parole d'Hachem. Des fois, tu te lances dans une affaire, je dis j'ai senti la main d'Hachem. C'est quoi la main d'Hachem? C'est-à-dire, t'as senti que vraiment Hachem est descendu et il s'est occupé de tout. Mais tout le temps, Hachem s'occupe de tout. Mais en général, il ne te montre pas. En général, t'as l'impression, oh, il y a la parole d'Hachem qui est là. Mais la main, c'est moi. La main, c'est moi, Hachem, il envoie l'énergie. Des fois, tu sens, il y a d'Hachem.
Et le souffle.
C'est la main. C'est la main d'Hachem. Voilà. C'est pour
expliquer. Comment se fait-il que les animaux, dans le Pirkei Avot, ils n'ont pas de problème, ils savent que tous les matins, ils ont à manger.
Oui.
Parce qu'ils ont la croyance. Sur cette façon de sentir la chose que nous n'avons pas, nous. Donc c'est à dire qu'ils ont une proximité.
Pourquoi on n'a pas?
Beaucoup d'entre nous, ils pensent pas très souvent
travailler d'abord. Dis, Rachid, la Gemara dit que les animaux voient des choses que les êtres humains ne sont pas capables de voir. C'est pour ça que quand il y avait l'ange, d'accord, qui se mettait dans la route de l'ânesse de Bilam. L'ânesse de Bilam n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens. À cause de ça, Bilam se cognait contre le mur. Et en fait, pourquoi? Parce que Bilam ne voyait pas l'ange, mais l'ânesse, elle voyait l'ange. Donc comme elle voyait un ange qui la bloquait, elle allait à droite. Après, elle virait à gauche. Mais Bilam ne voyait pas ça. Et Rachid Abbé explique, il dit parce que Dieu a donné la permission à l'animal de voir ce qu'elle ne voit pas. Mais attention, c'est à cause de la lacune de l'animal. Comme l'animal ne comprend pas comme l'homme, donc il peut voir, ça ne changera rien. Alors que l'être humain, comme il comprend un petit peu ce qu'il voit, ou il essaye de comprendre, donc s'il voit trop de choses, il explose. L'animal ne comprend pas de toutes les façons.
Mais il voit. Il ressent.
Bien sûr qu'il ressent. Et bien sûr, toutes les créatures parlent avec Kadosh Baruch Hu. Shlomo Ameler connaissait le langage des animaux. Les animaux parlent à Hachem. Ils chantent à Hachem tous les jours. Bien sûr qu'ils ont la Emouna. Chaque chose parle à Hachem. Même le bois quasiment va parler à Hachem. Le verre, il parle à Hachem. Tout le monde parle à Hachem ici. C'est de l'énergie, ça. Tout le monde parle à Hachem. Maintenant, il y a des choses dans lesquelles on voit plus clairement. Ouais. Vous avez des questions encore?
Non, c'est bon.
C'était pour expliquer la notion de. C'est pour expliquer la notion de Dibour. Bon. Maintenant, on n'a toujours pas répondu à la question de Michael. En vérité, toujours. Il faut un preview, c'est comme ça que ça marche. Alors, maintenant, ce qui n'a toujours pas répondu à la question de Michael.
C'est la loi des séries.
D'accord. Ah oui, c'est la loi des séries. La loi des séries, c'est que tant que t'es pas arrivé au dernier épisode, t'auras pas la réponse.
Le problème, c'est qu'il
n'y a pas de dernier épisode.
Alors, toujours pas répondu à ta question. Ta question qui est. Ok, j'ai compris ce que tu m'as dit. J'ai compris que tu m'as dit que tout est créé par Akadosh Baruch Hu, etc. Que tout est même la parole d'Hachem, c'est pas Stam qui parle, c'est qui génère. C'est une énergie qui est créatrice. Sauf qu'on reste quand même avec la question. Si Hachem crée tout, pourquoi on le voit pas? Comment c'est possible? Ça veut dire comment il arrive finalement à être là sans être là?
Non, ça d'accord, ça on a répondu déjà.
Pas vraiment. J'ai dit un mot, pseudo, ça c'est pour endormir. J'ai pas répondu à la question.
On avait dit il y a quelque temps qu'en réalité, c'était pour laisser le libre arbitre agir, c'est-à-dire te dire que tu es créé comme tu es créé, ton but c'est de te changer en te torturant intellectuellement pour pouvoir remplir la loi que je t'ai écrite, c'est-à-dire la Torah. Et que pour que ça ait un sens et que ça soit vraiment toi qui choisis, alors je me cache.
Ok.
Alors tu le fais, tu le fais pas, c'est pas la même chose.
Je vais te poser une question. Est-ce que tu es sûr que tu existes?
Non, pas du tout. Quel rapport?
Mais c'est la même question.
Quel rapport?
Bien sûr, c'est la même question.
Non, mais je suis pas sûr que j'existe. Parce que dans les conditions là que tu me dis, donc, j'ai l'impression d'être une projection dans un film.
Donc justement, donc c'est ma question. C'est comment d'un côté, tu es en train de me dire, que HM, HM me génère, mais d'un autre côté, donc j'ai une existence.
Mais il génère un film.
Mais d'un autre côté, cette existence que j'ai, je me dis, mais finalement, l'existence que je crois gérer une existence, finalement, je gère quoi ici?
Rien du tout, voilà.
Alors, je gère rien. Alors, où est mon libre arbitre? Pourquoi tu me punis? Pourquoi tu me récompenses? Donc, on a la même question. Parce que pour me punir, il faut que j'existe. J'existe, ça veut dire que je suis quelqu'un d'indépendant qui pouvait faire ça ou ça.
Mais je peux pas exister puisque tu m'as dit que.
Alors, comment ça marche?
Puisque tu m'as dit que tout le scénario, tous les textes, toutes les prises de vue.
Je vous donne un indice.
Tout, c'est écrit dans Bereshit.
Je vous donne un indice. La clé de la réponse sera le rayon du soleil. Sans faire de jeu de mots, ce sera un rayon de soleil, mais le rayon du soleil. On va essayer de comparer le rayon du soleil et le soleil, mais ça, j'en dis pas plus. On verra ça la semaine prochaine, si tu veux. Voilà.
Concernant l'animal qui fait plus de personnes dans le monde, c'est pas le crocodile, c'est pas le lion, c'est pas le chien.
Le moustique. Le matin, le soir.
720 000 personnes par an.
Il transmet les maladies.
Bah oui, exactement. Paludisme et compagnie. Le moustique tue.
Le moustique, vas-y. L'armée, ils ont été.
Le moustique, c'est le plus méchant.
Non, c'est le concept qui dérange le moustique.
Ouais,
c'est
qu'il
garde les yeux. Il fait que prendre.
Mais est-ce qu'il sait qu'il y a la question est important, c'est que, est-ce qu'il sait qu'il y a moyen de moustique? Ça dépend.
Non, le moustique, on ne peut pas le juger parce qu'il a été créé comme ça.
Oui, ça va.
C'est sa nature. C'est sa mission.
Il est compliqué, l'exemple du rayon du soleil, parce que tu vois bien que l'on dit qu'Abraham, il existe encore.
Ah, on l'a pas donné encore. Il faut expliquer ça.
Non, mais il y a quoi,
Villa?
Après le cours du rayon du soleil, il y a une suite.
Ah, ben,
pour expliquer, parce que justement.
Ça, c'est l'épisode 4. Là, on a fini l'épisode 2. Allez, mais je suis désolé, je suis venu maintenant. Bon, enfin, c'est l'heure.